à tous et bienvenue au culte de l'épi. Bienvenue les internautes, ce matin je vous propose de vous lever, de réveiller votre âme, si ce n'est fait. Et on va chanter, on va déclarer des choses ce matin dans la louange. Alors, c'est pas le temps de dormir. Vous êtes prêts? On va chanter « Lève-toi mon âme ».
Lève-toi.
Moi.
et le camp de l'ennemi.
Je vous invite à déclarer toutes ces vérités.
Fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. Tu déverses ton esprit
et encore aujourd'hui.
Ton règne est établi.
Tu réclames tout ce que l'ennemi
a pris.
Ce refrain, c'est la puissance de ton nom. Qu'on puisse le prendre avec vérité, qu'on puisse se l'approprier, qu'on puisse déclarer. Parce que quand on déclare quelque chose, il se passe quelque chose dans les lieux célestes. On est convaincu que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors on va le déclarer et on fait bouger. Ça bouge tout autour de nous, ça bouge. Et on déclare que Dieu est puissant, que Dieu est vivant, que Dieu habite en nous. On déclare, vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Je suis contente que vous êtes contents vous êtes avec moi. On y va.
De ton nom, une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison.
C'est ce qu'il nous promet, c'est les promesses.
Cette même puissance vit en nous.
Agis encore aujourd'hui, nous voulons te louer ce matin de tout notre cœur, de tout notre être, de tout notre être, corps, âme, esprit. Nous voulons t'adorer, t'offrir des sacrifices de louange, être à ton écoute ce matin, t'honorer parce que tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Quelle joie, quelle bénédiction de pouvoir t'offrir des sacrifices de louange. Alléluia. Ton amour m'attire à toi. Ton amour nous attire à toi. Et ce matin encore, tu as des choses à nous dire. Nous voulons, Seigneur, ouvrir notre âme, ouvrir notre cœur à toi, car tu nous cherches. Tu me cherches au plus profond de l'abîme, tu me cherches au plus profond de l'épreuve. Même si je suis dévastée, tu es là, tu restes là. Même si je ne sens plus rien, je vous invite, chers frères et sœurs, à pouvoir plier le genou devant lui, à crier à lui, à le remercier pour ce qu'il est, à le remercier pour son intervention, même si on ne la voit pas tout de suite. Il agit, on vient de le déclarer, il agit demain encore. Il a agi hier, aujourd'hui, demain, c'est une promesse, il est là avec nous.
Tu me connais.
Tu as gagné sur le dimanche matin. Tous les jours, que notre vie soit conforme, Seigneur, à ta parole. Viens nous transformer à ton image, jour après jour. Merci pour ta grâce, parce que tu nous relèves après les chutes de chaque jour. Tu nous tiens dans ta main. Ton amour est puissant. Ton amour nous relève, ton amour est là. Il nous tire vers l'avant. Il nous dit, relève-toi, je suis avec toi, je t'aime. Recevez cette parole ce matin. Je vous aime. Je vous aime, mes enfants. Continue ton chemin. N'abandonne pas. Continue. Je suis avec toi. Aie foi en moi. Et tu verras ma puissance. Tu verras les guérisons. Tu verras ce que je fais dans ta vie. Tu es saint, Jésus, tu es saint. Nous voulons élever encore ton nom. Toutes les générations, toutes, on va élever encore son nom. Et on va déclarer avec les anges qu'il est saint.
Royaume et dignité, ton nom.
Ce matin, tu te dis, je n'arrive plus à me connecter avec mon Dieu. Me connecter, ce sont tes paroles, tes pensées. Tu dis, mais qu'est-ce qui fait obstacle, mon Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Et le Seigneur te dit tout simplement, tu ne m'as pas tout remis. Il y a des choses que tu gardes pour toi. Et ce matin encore, tu me posais la question. Tu dis, Seigneur mon Dieu, pourquoi je n'arrive pas à m'approcher de toi? C'est ton célibat que tu ne m'as pas remis. Remets-moi ton célibat. J'ai tout prévu pour toi, mais c'est cette chose-là que tu veux garder pour toi. Remets-moi tout, toute ta vie, mais ton célibat également. Et tu verras que va virer dans ta vie et tu verras tout ce que je prépare pour toi. Mais donne-moi tout, mon enfant.
Juste rester dans une atmosphère d'écoute, puis on va écouter une deuxième parole.
Il y a le Seigneur qui m'a mis une parole sur mon cœur, donc je vous la communique. Cette parole s'adresse à plusieurs personnes ici dans le lieu. Tu n'arrives pas à rentrer dans la louange, tu n'arrives pas à rentrer dans ces moments de prière. Tu restes comme spectateur, comme la parole juste avant, tu n'arrives pas à te connecter à Dieu. Des choses t'empêchent. Et le Seigneur dit vraiment, viens, entre dans la louange, entre dans la prière. Connecte ton cœur, épanche ton cœur. Des bénédictions découlent de la louange et de la prière. Alors ne passe pas à côté de ces moments. Vraiment. Il veut vraiment te bénir et te décharger de ton cœur lourd. Alors approche-toi tout entier. Loue-le et prie-le de tout ton cœur, vraiment. Amen.
Seigneur, on veut répondre à ces paroles qu'on vient de recevoir et puis on va reprendre ce chant ensemble et on veut juste, Seigneur, déverser notre cœur devant toi. On est ton église, on est tes enfants, Seigneur. Tu mérites qu'on te donne tout. Parfois, c'est pas simple, parfois, c'est dur à lâcher. Mais on veut pas oublier, Seigneur, que tu as dit, venez à moi, vous tous qui fatiguez et chargez, je vous donnerai du repos. Et on va prendre ton joug qui est doux et léger, Seigneur. On va reprendre ce chant ensemble, on va célébrer que tu es saint. Et même si on n'a pas envie de le faire, on va dire à notre âme, comme David le faisait dans le psaume, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que tu nous as rachetés. Et des fois, on a besoin de se rappeler à quel point tu es digne d'être loué, parce que tu es fidèle, parce que tu es grand, parce que tu ne nous as jamais abandonnés, parce que tu nous pardonnes à chaque fois qu'on revient, parce que tu nous relèves tout le temps, parce que tu nous conduis alors qu'on est dans le désert, parce que tu ferais un chemin alors qu'on a l'impression d'être dans une impasse. Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer encore, on veut s'abandonner à toi ce matin en tant qu'Église, Seigneur. Qu'on puisse reprendre ce chant et que chaque personne puisse se déverser son cœur devant Dieu et tout lui donner. Ce ne sera jamais une perte. On ne perd jamais à tout donner à Dieu parce que tout nous vient de lui. On chante ensemble.
suis.
Dernière fois, tout doucement, ton nom.
Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout.
Puissance.
Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout.
Alléluia. Alléluia, Jésus, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'honorer. Merci pour ton nom. Pour l'acclamer, Jésus. Amen.
Yes. Yeah, je pense que vous avez raison de pouvoir célébrer Dieu parce qu'il le mérite. Celui qui relève, celui qui est fatigué, celui qui se réjouit avec celui qui est joyeux. Et ce matin, je pense qu'il y a des gens qui sont dans la joie, n'est-ce pas ? Yes, yes, merci à l'équipe de louange, merci pour ce temps. C'est toujours bon d'être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire aussi. On a vécu un temps comme ça, comme j'ai dit, durant la semaine de jeûne et prière, mais Dieu continue de parler. C'est pas juste pendant les jeûnes et prières. À chaque jour, Dieu veut nous parler. Vous êtes d'accord avec ça ? Yes, quelques annonces pour vous, mais avant ça, on va juste souhaiter la bienvenue peut-être à ceux qui nous visitent, bienvenue à l'EPI, ceux qui ont l'habitude de venir, mais bienvenue aussi à ceux qui sont là pour les premières fois. Et si vous vous demandez c'est quoi l'EPI, c'est quoi l'église, tout ça, c'est pas juste le dimanche. On a des groupes de vie, on a des groupes de formation, on a différents groupes pour apprendre à connaître des gens, pour aller un peu plus loin dans la foi aussi, pour se rapprocher de Dieu dans des petits groupes. Des fois c'est un peu plus simple aussi, un peu plus intime, un peu plus en profondeur avec du 1 à 1 ou dans des groupes de 10, 15, 20. Donc n'hésitez pas à aller au point accueil, il y a un groupe qui peut vous convenir. Je pense vraiment c'est autour de centre d'intérêt, centre d'âge ou même au niveau de la langue. Donc n'hésitez pas à aller voir au point accueil, il y a différents flyers avec tous les groupes de vie qu'on a à l'EPI. Quelques annonces concernant la vie d'église. Premièrement, il y a l'association La Traversée, qui est une association de relations d'aide, qui organise une conférence le vendredi 15 mars à 20h30. C'est aussi disponible en ligne et c'est sur la thématique de l'équilibre. Combien sont d'accord pour dire qu'on a besoin d'équilibre dans notre vie chrétienne ? Yes, que ce soit dans tous les domaines, on a besoin d'équilibre, la vie de famille, notre spiritualité, on a besoin d'équilibre. Et c'est une conférence et il y aura Yolande Schwab notamment qui sera une des intervenantes. Donc c'est le vendredi 15 mars 2024 à 20h30, c'est ouvert à tous. Ok. Et pour toute information complémentaire, il y a le flyers qui est disponible au point accueil, donc n'hésitez pas à y aller. Et c'est aussi, comme je l'ai dit, en ligne. Ensuite, on a parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines si je ne me trompe pas, d'une nouvelle formation qu'on a lancée pour créer son groupe de maison. On a une dizaine de groupes de maison aussi à l'EPI, puis on veut vraiment mettre ça en avant parce qu'on croit que comme Jésus avait son groupe de vie, on croit que c'est important d'avoir aussi des amitiés proches avec lesquelles on va développer des relations sincères, des relations vraies, avec qui on va être encouragé, on va s'encourager mutuellement et on va grandir ensemble. Et c'est justement la vision des groupes de maison à l'EPI. Et il y a une nouvelle formation justement qui commence à partir du 16 mars. Pourquoi une formation ? Parce qu'on ne peut pas juste ouvrir un groupe comme ça, on a besoin d'être formé, on a besoin de structure, on a besoin d'être accompagné. Et quelle idée géniale juste de pouvoir aussi recevoir une formation des personnes qui sont expérimentées dans le domaine. Notamment avec Marie-Christine Cariol qui a vraiment au cœur les groupes. Et c'est, si vous discutez avec elle, vous allez voir, c'est une femme passionnée par les groupes et elle a compris l'importance des groupes. Donc les objectifs c'est quoi ? C'est permettre l'installation et le développement de nouveaux groupes de maisons à vocation missionnelle à partir de septembre. On ne veut pas juste se réunir ensemble, on veut avoir un impact là où Dieu nous a placés. Donc on se réunit ensemble pour grandir spirituellement, pour se rencontrer, mais aussi pour briller autour de nous, dans le quartier, là où on est. Bénéficier d'un temps collectif dédié pour monter son projet. Des fois, on a une vision, mais comme on l'a rappelé il y a deux semaines, une vision, ça prend une structure. Ça prend d'être organisé pour le mettre en place. C'est aussi discerner les besoins, la forme du projet et les collaborateurs, développer des compétences dans divers domaines. Et on aura vraiment, c'est vraiment riche comme formation, ça va être génial. Expérimenter divers types d'animation biblique également. On peut prendre la slide suivante. Chaque séance sera circulée autour d'un court enseignement, d'ateliers, de construction de projets, d'expérimentation des différents modes d'animation biblique. Il n'y a pas juste un modèle, on va en présenter plusieurs et ça dépend vraiment de l'ADN du groupe que vous voulez faire. De présentation d'outils en lien avec des compétences spécifiques, de témoignages, parce qu'on va aussi entendre comment les gens le vivent, de temps de prière, discernement et tous les supports utilisés sont ludiques et pédagogiques. En gros, c'est une formation qui donne envie d'y assister, vous croyez pas ? Ok, la suite, donc 4 thématiques, vision, rêver et construire, organiser, coopérer, prendre soin les uns des autres et cheminer et grandir et multiplier. Et ça va être sur 4 samedis entiers. C'est assez lourd comme formation, mais c'est vraiment riche. On a vraiment besoin de ça pour avoir des groupes solides. Donc c'est 16 mars, 13 avril, 18 mai, 22 juin. Et ça va être en salle jeunesse au Rétio Seba à l'EPI. Donc si vous êtes intéressé, point accueil, il y a le flyer, il y a le code, le QR code ou même sur le site internet, n'hésitez pas. Et après, on aura un temps de rencontre justement avec quelqu'un de l'équipe, avec moi ou quelqu'un de l'équipe pastorale, avec Mathieu ou Marie. Et ensuite, on va vous accompagner pour créer ce groupe-là. Parce qu'on croit que si ça brûle sur votre cœur, on croit que c'est un appel de Dieu. On croit que vous pouvez justement répondre à cet appel-là puis avoir un impact avec des gens autour de vous et dans le quartier là où vous êtes. Donc n'hésitez pas, point accueil, flyer, si vous avez des questions, venez me voir à la fin, ça me fera un plaisir de pouvoir répondre. Dernière annonce, et pas des moindres, Mathieu a annoncé la semaine dernière notre AG. L'AG qui sera en deux parties, donc ça va être une AG extraordinaire qui sera en deux parties. Ça va être le dimanche 17 mars où on va voir justement le bilan 2023, l'exercice 2024 et un vote sur les statuts révisés. Et pour tous ceux qui déjà se posent des questions, ça fait beaucoup de charabia tout ça, on a mis un stand juste derrière. Là où il y avait Restons un jour, vous verrez, il y a des nappes noires au mur et puis il y a des affiches. Il y a le bilan 2023 qui est là, il y a l'ordre du jour de l'AG. Donc juste derrière, n'hésitez pas à aller voir, c'est ici jusqu'à l'AG. Donc comme ça, si vous avez des questions, vous aurez déjà quelques réponses à ce moment-là. Et la semaine prochaine, il y a même les membres du CA qui seront là pour répondre aux questions supplémentaires que vous n'aviez pas trouvées justement lors de ce stand. Et ensuite, pour concernant les statuts révisés, donc on aura une vidéoconférence le lundi 11 mars à 20h qui va durer une heure. Pour tous ceux qui ont des questions concernant les statuts, peut-être vous en avez jamais entendu parler, peut-être vous savez, mais pas trop, venez à cette vidéoconférence, vous aurez toutes les réponses à vos questions sur qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que c'est la loi LCRPR, ok, donc c'est des termes peut-être un peu compliqués, on va répondre à tout ça. Donc c'est le lundi 11 mars à 20h en vidéoconférence et le lien sera disponible dès le 3 mars. On a déjà commencé à envoyer justement les statuts révisés par mail. Donc n'hésitez pas, si vous êtes membre, c'est destiné aux membres, parce que c'est les membres qui ont droit de vote et qui ont un droit de regard là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi dans vos spams, vos courriers indésirables, peut-être vous l'avez reçu, ou peut-être que justement vous n'avez pas encore cliqué dessus, allez-y. C'est sûr que c'est beaucoup de pages, mais c'est super important pour comprendre qui on est en tant qu'église, association culturelle en France, pour comprendre vraiment comment on fonctionne. Donc allez lire ça, et si vous avez des questions, lundi 11 mars, amateur en vidéo, conférence. J'en ai fini pour mes annonces. Je vais inviter Anne qui va apporter la parole ce matin. Et si vous êtes d'accord, on va prier pour elle, pour que Dieu nous parle à travers elle. Vous êtes d'accord avec ça? Seigneur, on te remercie pour ce matin parce que tu parles encore. Et puis on veut encore être à ton écoute à travers Anne ce matin qui va partager, Seigneur, sur ta parole. On croit que ta parole est une parole vivante et qu'elle nous rejoint dans nos situations aujourd'hui, en 2024 à Strasbourg. Alors viens encore parler, viens inspirer, Seigneur, Anne. Viens vraiment la conduire, que tes mots soient ses mots, Seigneur, et que tu puisses nous rendre aussi disposés à écouter ce que tu souhaites nous dire. Au nom de Jésus, amen.
Amen. Merci, Jackie, pour ton amen profond, fort. Ça fait du bien. Alors, petite devinette, vous êtes prêts à buzzer? Alors, on n'a pas de buzzer, mais on va lever la main. Est-ce que vos mains sont en forme? Allez, montrez-moi, est-ce que vos mains sont là? Ouais, ça va, ok. Par là, ouais, ok. Par là, pas trop, mais c'est pas grave, on va y aller. Ce matin, on va parler d'un personnage. Ceux qui sont au courant, s'il vous plaît, jouez le jeu. Vous êtes prêts? Le premier qui a deviné, vous levez la main. Ok. Né vers 1916 avant Jésus-Christ. Personne. Je suis le fils de l'épouse préférée de mon père.
Rachel.
Ah non, je suis le fils. Mais c'est bon. Joseph, c'est Joseph. Alors ce matin, on va parler de Joseph. Et le titre du message ce matin, c'est « Prospérer là où d'autres auraient sombré ». Et je pense que l'histoire de Joseph est un super bon exemple. Son histoire est dans les chapitres de la Genèse, de 37 à 50. Et j'avoue, je vous le confesse ce matin, à chaque fois que je démarre la lecture de l'histoire de Joseph, je ne peux pas m'empêcher de la continuer jusqu'à la fin. Alors je connais la fin, je connais les débouchés et tout. Et j'ai toujours les larmes qui coulent vers la fin et tout, tellement de joie. Oui, je suis une femme, je l'assume et je suis heureuse. Mais cette histoire, en fait, je la trouve vraiment palpitante. Elle renferme vraiment tous les aspects des expressions de l'être humain, autant les aspects un peu sombres que lumineux. Et ouais, moi, je suis fascinée. Mais elle est remplie d'enseignements. Et j'ai envie de dire, parfois, à chaque fois que je lisais un verset, genre, punaise, on pourrait dire ça par rapport à ça et tout. Donc ce matin, on va se cantonner juste à quatre événement que Joseph a traversé. Et l'objectif est vraiment de voir qu'au travers de ces événements, ce qui a permis à Joseph justement de ne pas sombrer, c'est son intégrité. Ces quatre événements sont le rejet, la tentation, l'injustice et le succès. Avant de commencer, je vais donner une petite définition de ce qu'est l'intégrité. Alors, le dictionnaire précise que ce mot vient du latin integrita, qui signifie totalement honnête. La racine du mot intègre, qui signifie pur, intact, entier. Et une personne intègre est quelqu'un qui agit avec honnêteté, éthique et cohérence dans toutes ses actions et décisions. Cette personne respecte les principes moraux et les normes sociales, et elle est fidèle à ses valeurs, même lorsque cela peut être difficile ou peu pratique. L'intégrité implique une sincérité profonde et une volonté de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. C'est une qualité fondamentale qui inspire la confiance et le respect des autres. Les personnes intègres n'ont rien à cacher ni à craindre. Ok, maintenant on a une petite définition de ce qu'est l'intégrité. Et on va voir comment Joseph, face au rejet, a réagi. On va lire dans Genèse 37, le verset 3 et 4, qui nous plante un petit peu le décor quand même. C'est Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux, plus que tous, et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. On voit que là, Jacob marque la différence entre ses fils. Certains commentateurs disent que quand il a donné cette tunique multicolore, c'est un peu comme s'il disait à son fils Joseph, ça va, toi, ne va pas trop au travail, t'es pas trop obligé d'aller au travail comme tes frères et tout, reste un peu avec ton père. Il a marqué le fait qu'il le préférait. Gordon G. Venham, pardon, a dit « Le favoritisme a une longue histoire dans la famille de Jacob. Isaac aimait Ésaü plus que Jacob, Rebecca aimait Jacob plus qu'Ésaü, et surtout, Jacob aimait Rachel plus que Léa. » Il y a du favoritisme qui peut peut-être entraîner une tension entre Joseph et ses frères. Et quand on continue l'histoire, dans les versets, la lecture, nous voyons que Joseph, à un moment donné, il fait des rêves. Et ces rêves faisaient en fait appel au fait qu'à un moment donné, Joseph allait devenir haut placé, allait avoir une place importante et que sa famille allait se prosterner devant lui. Alors vu la notoriété que Joseph avait auprès de ses frères, lui s'est empressé de raconter. Moi, je sais que s'il y a des gens qui ne m'aiment pas trop, je ne vais pas aller raconter des choses qui me mettent en valeur. Mais lui, il y est allé. Et là, ça a agrémenté un peu, peut-être la jalousie, la colère de ses frères. Et un jour, Jacob dit à Joseph, va voir tes frères. Va voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font, si le troupeau va bien, si tout se passe bien. Et on lit Genèse 37, 18, 20. Donc ses frères, le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant. Tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Aïe, aïe, aïe. Le fait que Jacob préfère Joseph, que Joseph, à un moment donné, a dit qu'il serait gouverneur sur sa famille, tout est propice à ce que ses frères le rejettent, à ce que ses frères lui fassent du mal. Alors bien sûr, heureusement, on le sait, dans la suite de l'histoire, ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont vendu comme esclave. Je dois avouer que ce rejet, on peut le vivre dans diverses situations. Je me rappelle que dans ma famille, pas avec mes parents, mais du côté de ma maman, il s'impliquait un peu trop, des fois, dans l'éducation de mon frère, ma sœur et moi. Et j'avais cette étiquette de enfant modèle. J'avais juste l'étiquette. Et j'avais pas le droit de me manquer, en fait. Mais à un moment donné, parfaitement imparfaite, je me suis manquée. Et j'avais fait un super poème sur la famille que j'avais offert à ma grand-mère. Ma grand-mère, du coup, l'avait détachée de son mur. Mes oncles et tantes me parlaient plus et tout, rejetés, pour me faire comprendre que j'avais fait quelque chose de mal. Rejet dans la famille. Au collège, quand je suis arrivée en sixième, super l'arrivée en sixième, l'arc facial, c'est un arc là qui sort à l'extérieur pour remettre les dents à l'endroit. J'avais sur mon visage un acné un peu imposant et tout ça. J'avais pas forcément des habits de marque. Et plein de personnes, plein de collégiens marquaient le rejet. Jusqu'au point où même un troisième année a craché sur mon cartable. Rejet au collège, à l'école. Rejet aussi à l'église. Quand j'ai commencé à servir Dieu auprès des enfants, j'étais à fond. Et on était en train de répéter un spectacle et moi je leur montrais à chaque fois comment il fallait s'exprimer. J'étais avec eux à fond, je jouais avec eux et tout ça. Il y avait des animateurs un peu dans le coin qui disaient, qui commençaient à ruminer et tout. Oui, non mais Anne, elle est un peu trop pesante. Ils sont allés voir la femme du pasteur. La femme du pasteur est venue me voir et m'a dit « Anne, est-ce que tu peux te mettre un peu de côté s'il te plaît ?» Rejetée dans l'église. Comment Joseph a réagi ? Et pour le savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout lire ce matin. Et vraiment, cette semaine, lisez l'histoire de Joseph. Quand Joseph, il devient justement le bras droit du Pharaon en Égypte, sa position lui a permis de sauver sa famille de la famine, en leur fournissant des vivres, en pourvoyant à leurs besoins. Et malgré le traitement injuste qu'il a subi par ses frères, malgré que les frères l'ont mis dans la citerne, malgré qu'il l'ait vendu en esclave, Joseph n'a pas succombé à la vengeance. Joseph ne s'est pas laissé envahir par la rancœur, par la haine, mais il a été fidèle à ses valeurs, fidèle à l'enseignement qu'il a eu. Il a pardonné. Il a pardonné à ses frères. Et ce qui est même impressionnant, on va le lire, c'est ce que va dire Joseph dans Genèse 45, versets 7 et 8. Il dit à ses frères, au point où même il ne retient pas de rancœur ni rien, « Dieu m'a envoyé ici avant pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. C'est quand même impressionnant comment Joseph a gardé son intégrité face au rejet. Comment allons-nous réagir face au rejet ? Quelle est la première réaction qui vient ? Est-ce que nous allons être intègres à nos valeurs et intègres à ce que Dieu nous demande de pardonner, d'aimer ? Si vous avez vécu le rejet, j'ai vu que Denis Morissette a fait des vidéos sur comment vivre le rejet qui sont vraiment intéressantes et qui donnent des outils pour arriver à encaisser le rejet. Joseph, l'homme intègre face au rejet. Et continuons. Joseph face à la tentation. Donc Joseph était vendu à Potiphar, un officier de haut rang en Égypte. Et malgré ça, Joseph prospérait. L'Éternel était toujours avec Joseph. Au point même qu'il était une bénédiction et que Potiphar l'a remarqué. Et ça, vous pourrez le lire dans le chapitre 39 de la Genèse. Alors ça n'a pas dû être facile pour Joseph, parce que imaginez la situation, le contexte. Il est vendu en esclave. Il se retrouve dans un pays qu'il ne connaît pas, il se retrouve avec des gens qu'il ne connaît pas, des traditions qu'il ne connaît pas, une langue qu'il ne connaît pas. Peut-être qu'il a commencé à faire la langue des signes, je ne sais pas. Mais on lit dans Genèse 39, 6 à 13. « Or Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. » Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ? Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, Il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Joseph a une place en or. Potiphar lui fait tellement confiance qu'il lui laisse tout gérer, vraiment tout, sauf sa femme. Joseph reste intègre, droit, honnête. Il s'occupe des affaires de son maître, rien de plus. Il ne déroge pas au cadre que son maître lui a mis. Mais voilà que Madame Potiphar n'est pas indifférente au bel étalon qu'elle voit devant lui. Et en plus, elle y va. Si elle n'y va pas par quatre chemins. Je ne sais pas, il y en a, ils séduiraient, ils essaieraient de faire comprendre. Elle, c'est de suite, couche avec moi. Je suis claire, net et précis. À une audace, persévérante ou plutôt insistante. Et en plus, elle y revient tous les jours, au cas où il n'avait pas compris. Quand Madame Potiphar, elle arrive pour la première fois devant Joseph, Joseph, sa réaction intègre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, de suite. Mais je pense qu'elle n'a pas compris le non, ou qu'elle a peut-être pris le haut du non pour un oui. Selon la traduction, je ne sais pas. Mais Joseph, il refuse, il résiste, il est intègre, il ne lâche pas. Il était loyal envers Dieu. C'était pas dans ses valeurs. C'était pas ce qu'il dégageait, c'est pas ce qu'il voulait, il ne voulait pas pécher contre Dieu. Et pour lui, il s'agissait bien plus que de respecter des lettres, des codes, des législatifs du Proche-Orient, parce que beaucoup de lettres parlaient d'interdiction de l'adultère. C'était bien plus que ça. C'était vraiment honorer Dieu, respecter, rester intègre même avec lui-même. Je ne bronche pas sur mes valeurs, je reste intègre. Clarence Edward McCartney, un pasteur et auteur presbytérien, a dit « Il ne s'agissait pas d'une tentative ordinaire. Joseph n'était ni une statue. » Petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec les statues de l'association. Hein. C'est une statue. « Ni une momie. » Mais un jeune homme plein d'ardeur comme les autres, qui approchait la trentaine. Une ancienne légende raconte que lorsque Joseph se mit à parler de Dieu à cette tentatrice, elle jeta sa robe sur l'idole en pierre qui ornait la pièce en s'écriant « Maintenant, Dieu ne verra plus rien !» Mais que Joseph répondit aussi « Mon Dieu voit tout !» Ils n'avaient pas le même Dieu. Et Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu entend tout. C'est quand même un truc de dingue. Pour éviter qu'il y aurait cette tentation, il aurait fallu que soit Madame Potiphar soit aveugle, soit que Joseph soit moins attirant. Mais il a subi la tentation. Elle était bien là. Et en plus, avec la femme du patron. Elle n'a pas lâché. Elle avait l'idée en tête pour arriver à ses fins, jusqu'à aller cacher la statue pour dire « C'est bon, Dieu ne nous voit pas, on peut faire ce qu'on veut. » Non, Madame Potiphar, on n'en est pas là, c'est que Dieu voit tout. Et Joseph est un bon exemple, malgré ses refus catégoriques. Il n'a pas essayé de raisonner, il n'a pas essayé de discuter, il n'a pas essayé de négocier. Mais à un moment donné, il a fui. Il est resté intègre à ses valeurs et il est parti. Il a fui, il n'a pas succombé. Charles Swindoll, dans son ouvrage « Joseph, un homme intègre et droit », dit « L'attraction exercée par la sensualité agit comme un aimant qui attire de façon subite et aiguë, deux éléments l'un envers l'autre. C'est la combinaison d'un désir interne et d'un hameçon externe. Disons-le d'emblée, tant qu'on vit dans le monde réel, on ne peut pas esquiver l'hameçon. Même si on tente de se tenir éloigné du monde, l'esprit présentera toujours un appât. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas un péché tant qu'on n'y a pas mordu. Le péché est le fait de capituler. » D'accord ? C'est juste pour qu'on soit rassuré que des fois, il y a la tentation, elle est là, elle est bien là, elle est bien présente et parfois trop présente. Mais tant qu'on n'y succombe pas, on ne pêche pas. Et Joseph, il a été tenté, tenté et retenté et retenté. Et face à cette situation, il n'a pas lâché et il l'a fui. Alors là, on parle de la tentation un peu sensuelle, mais il y a d'autres tentations. Tentation de mentir, tentation de voler, tentation de tricher, tentation de commettre des actes violents envers autrui, de pas respecter les autres, tentation de convoiter les biens de son prochain, tentation de nourrir la colère, la haine, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'idolâtrie, sous toutes ses formes. Quand j'étais petite, je me confessais là. J'habitais dans un petit village de 3000 habitants, maintenant il y en a 4500, et ils venaient d'installer une petite supérette là. Il y avait des malabars. Je suis allée au rayon. Alors je me souviens plus si quand je suis arrivée dans le supermarché, parce que j'aime bien visiter les nouveautés, donc c'était nouveau dans notre village, et j'aime bien visiter, puis là je sais plus si le paquet était ouvert ou pas, je crois qu'il était ouvert, je suis plus sûre. Qu'est-ce que j'ai fait? La tentation, elle était là. Ben, j'ai volé les malabars. Ouais, j'étais pas intègre du tout. Mais je crois qu'une semaine après, ils ont mis des caméras parce qu'ils ont dû se faire voler plein de choses. C'était pas tout moi, hein, ok? Faut pas abuser non plus. Mes parents le savent, donc c'est bon. Mais il y avait une autre situation quand j'étais à l'école publique. On passait des évaluations. Et donc une fois, j'ai révisé jusqu'à 1h du matin. Et donc je connaissais ma leçon et tout. Je connaissais, j'avais compris. J'étais ok, allez, je vais me coucher parce que là, ça fait tard. J'y vais, je me couche, je me lève tôt le matin, petit déj, tout ça, nanana. Arrivé devant la copie, on n'était pas surveillé à l'école publique. Il n'y avait pas de personne pour surveiller. Et arrivé donc devant la copie, d'un coup le trou noir. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, le trou noir. Ah, ça leur arrive là-bas. Ça. Et là, je dis, mais punaise Seigneur, j'ai révisé quand même, j'ai fait ma part, plus que ma part, jusqu'à 1h du matin, quoi. Et là, les larmes commencent à monter dans les yeux. Ma collègue qui était arrivée qui, à côté, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai révisé, je savais mon cours et tout. Elle me dit, ben oui, je t'ai interrogé. Et du coup, j'ai dit, je sais plus rien, je sais plus, je bug, je sais pas ce qu'il a fait le cerveau, il s'est mis en mode veille. Et d'un coup, elle dit, mais t'inquiète pas. Et elle tourne un peu sa copie vers moi pour essayer de... Et là, je fais, hop, 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 hop. Et là, je dis, qu'est-ce que tu fais, Anne? Et j'ai dit, non, je peux pas. Je peux pas parce que je sais que Dieu est là et franchement, ça sert à quoi? Franchement. J'ai pas triché, je suis restée intègre à mes valeurs et j'ai résisté. Et Joseph, c'est ce qu'il a fait face à la tentation, il est resté intègre, droit. Et c'est vrai que parfois, c'est pas facile face à la tentation. Mais rappelons-nous cette intégrité. Et parfois, j'avoue, j'ose dire que quand on résiste à la tentation et qu'on reste intègre, ben on est un petit peu fier quand même d'y être arrivé, n'est-ce pas? Voilà. Alors face au rejet, face à la tentation... Et maintenant, face à l'injustice. Joseph a résisté face à Madame Potiphar. Mais quand il s'est enfui, ben, il a laissé l'habit entre les mains. Donc on va lire dans Genèse 39, versets 16 à 19. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave !» Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. William Congreve, un dramaturge poète britannique, a dit « Rien n'est pire que l'amour qui se transforme en haine et nul n'est plus furieux qu'une femme ridiculisée. » Pourquoi il n'a pas dit les hommes ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous voilà devant une scène de crime. Ok, Madame Potiphar n'a pas eu ce qu'elle a voulu. Joseph a tenu tête donc à une femme de pouvoir. Je ne sais pas s'il savait ce qu'il encourait, mais il l'a fait, il est resté intègre. Et Madame Potiphar, elle n'en reste pas là. Elle réfléchit. Comment je pourrais un peu l'accuser ? Parce que je n'ai pas eu ce que je voulais. Et certains commentateurs disent que les cris qu'elle a poussés sont plus des cris d'une femme vexée par le refus de Joseph face à ses avances. Eh bien, Madame Potiphar, elle n'a pas géré le rejet et elle n'a pas supporté le rejet. Je vous avoue que si je m'étais retrouvée à la place de Joseph, je suis en train de vivre une injustice. On est en train de m'accuser de quelque chose qui est faux. Ok, je regarde Monsieur Potiphar et je lui dis « Écoute-moi, Monsieur Potiphar, normalement, dans une situation, on écoute les deux sons de cloche. Ok ? Ou sinon, solution, j'appelle Colombo, inspecteur Barnaby, Gogo Gadget et je ne sais plus qui, pour leur dire « Analysez, s'il vous plaît, on stoppe tout, on reste là, prenez les empreintes et faites-moi justice. » Mais en plus, dans la lecture et dans ce que j'ai lu dans les commentaires, plusieurs commentateurs disent que Potiphar est confronté à une accusation fausse de la part de sa femme, qu'il prend une mesure minimale contre Joseph pour préserver l'honneur de sa famille, évitant ainsi une exécution immédiate. Ce qui se passe, c'est que, en fait, Potiphar a réalisé que sa femme voulait le tromper, mais il savait que que Joseph était intègre, son bras droit était intègre. Et normalement, quand on commet un adultère, c'est la sentence et la mort. Et là, sachant que il voulait pas faire perdre la face devant tout le monde à sa femme, donc il a mis en prison Joseph. Injustice. Et là, même si c'est faux, Joseph se retrouve en prison. Et l'Éternel était avec lui. L'Éternel a permis à Joseph qu'il ait la faveur du chef de la prison. Alors devant cette injustice, Joseph prisonnier, il aurait pu se laisser sombrer dans l'apitoiement sur lui, le désespoir. Et pourquoi ? Et moi, je te dis que c'est pas moi. Et j'en suis sûre et je vais le raconter à tout le monde. Je crois que j'avais vécu une injustice à un moment donné. C'est ma sœur, excusez-moi, ça me revient. C'était une période un peu tendue avec ma sœur et on avait un poste rouge. Ma sœur, si tu m'entends, je sais que je te dis poste rouge et tu comprends. Et en fait, on avait nos deux bureaux et le poste rouge, on essayait de le mettre entre les deux bureaux pour chacune. Et à un moment donné, t'allais rapporter à ma mère, oui, mais Anne, elle met pas le poste rouge aussi sur mon bureau, nanana. Injustice, c'était pas vrai. Et souvent, c'est les plus grands qui prennent pour les plus petits. Non mais... Donc là, Joseph se retrouve en prison. Et puis, un jour arrive le responsable des boissons du pharaon et puis le boulanger. La Bible ne nous dit pas pourquoi ils ont été condamnés. Mais ils sont là, ils arrivent en prison. Et ces deux hommes, ils font un rêve un peu particulier qui les travaille. Et au petit matin, quand ils se réveillent, ils sont un peu bizarres et se disent « Maman, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas, ça me perturbe. » Joseph, qui était là, affairé à ses occupations et peut-être même à prendre soin des prisonniers, à voir si tout le monde va bien, si vraiment il était cette personne à être égocentré, pour moi, il n'aurait pas vu que ces deux hommes n'allaient pas bien. Mais là, malgré l'injustice qu'il a vécue, il l'a vu sur le visage de ces deux personnes qu'ils n'allaient pas bien. Il est allé avec eux. Il est allé les voir. Malgré l'injustice qu'il a traversée, il a manifesté de l'amour, de l'empathie et de la bienveillance. Là, je vais vous raconter un témoignage que j'ai vécu 2 années de suite. J'ai participé à un groupe groupe de chant et qui faisait des tournées un peu dans certaines régions. Et je connais mon niveau de voix, je sais que je chante juste. Je ne suis pas une professionnelle, et je l'assume, tout va bien. J'avoue qu'à côté d'une Olive, Glory, Clara et tout, c'est pas que je me sens dévalorisée, mais je sais que je reconnais les dons et les qualités. Ok ? J'ai peut-être pas eu ce don, mais ça me va. Et la première année, j'avais pas demandé de solo ni rien. Parce que... La deuxième année, à un moment donné, la coach vocale, elle dit « Bon, pour ce chant, j'ai trouvé personne pour l'instant pour le solo, donc on verra bien ce qu'on fera. » Ok. Et puis, je sais pas pourquoi, je vais la voir, je dis « Écoute, moi, je veux bien tenter. Mais par contre, tu me dis la vérité. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Je vais pas me vexer, j'y vais. » Elle m'écoute, elle dit « Bon, écoute, c'est bon, pas de souci, tu le fais. » D'accord. Je ne sais pas dans quoi je me suis engagée, parce que vu que je suis une personne qui stresse facilement, le premier jour de la première représentation, je me suis un peu manquée, parce que le stress m'a pris le dessus, je me suis un peu manquée. Et là, on m'a de suite enlevé le solo. Pour moi, je vais dire, bon, bah, ok, je me suis manqué. Mais j'ai vécu une injustice, pourquoi? Parce qu'il y avait une autre personne dans le groupe, elle avait un solo, elle ne connaissait pas les paroles, et on lui a donné une chance, deux chances, trois chances, etc. Et que moi, parce que je me suis manqué une fois, eh ben non, on t'enlève le solo. Et en plus, on m'avait prévenu 10 minutes avant d'arriver à l'autre lieu de représentation. Et la personne, on était normalement deux responsables, donc on m'avait pas mise au courant et tout, on n'avait pas discuté avec moi, mais on me met au pied du mur, on me dit voilà, tu feras pas le solo, et on le donnera à une autre personne qui connaissait pas non plus le solo, mais c'est pas grave. Et donc, elle me dit, ouais, on peut se faire un câlin? Attends. Laisse-moi digérer 2 secondes, s'il te plaît. Donc je lui ai dit non, j'étais honnête, je lui ai dit non, je peux pas, là, il faut que je digère. Et il y a plein d'autres personnes du groupe qui étaient là à vouloir me faire justice. Non, mais non, attends, c'est pas normal et tout, là, ah non, c'est pas normal. Et moi, comment je vais gérer la situation? On se retrouve en petit groupe, j'étais avec les sopranes, et donc là, elle surenchérissait. Non, mais Anne, c'est injuste. Je dis, écoutez les filles, qu'est-ce qui est important là ce soir? Je dis, c'est pas moi qui est important. C'est que des personnes vont venir entendre parler de l'amour de Jésus. Et ça, c'est le plus important. Donc, on reste là, intègre, on y va, on fait à fond et on chante pour la gloire de Dieu. On chante pour annoncer cette bonne nouvelle. On chante pour que des personnes se convertissent et se tournent vers Dieu. Je suis restée intègre à mes valeurs, même si j'ai vécu l'injustice, même si pour moi, c'était une injustice. Je suis restée intègre. Donc, Joseph, il prend là le temps d'écouter ces deux hommes. Il a de la compassion. Le responsable des boissons lui raconte son rêve, ça a une bonne finalité dans son rêve. Il dit « Ok, c'est bon, tu vas être remis à ta place, pas de souci et tout. » Le responsable boulanger, il lui raconte son rêve et là, Joseph comprend que c'est une finalité où il va être condamné à mort. Est-ce que Joseph va rester encore intègre? Il aurait pu lui mentir. Il aurait pu dire « Ouais, t'inquiète pas, c'est comme ton collègue, tu vas avoir la bonne place et tout ça. » Non, il a été intègre, il n'a pas menti. Il dit « Voilà ce qui va t'arriver. » Tu vas être condamné à mort. Joseph, suite à ça, leur demande une chose. Il leur dit, le jour où ça arrive, bon, peut-être pas au boulanger, parce que s'il est mort, il ne pourra plus parler de Joseph, mais du coup, au responsable des boissons, il lui dit, écoute, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Joseph, face à l'injustice, il reste intègre. Et la dernière partie, Joseph, face au succès. Continue, Joseph est dans la prison. Il est dans cette prison et il se dit « Ok, je suis parti dans les oubliettes. Ils ont oublié que j'avais interprété leur rêve. » Mais une nuit, le pharaon va faire 2 rêves qui le troublent. Et au réveil, il convoque tous les magiciens, tous les interprètes de son palais, tout ça. Il dit « Voilà, j'ai fait ces rêves, dites-moi. » Mais personne, pas un, ne pouvait interpréter ces rêves. Et là, ah, notre cher responsable de boisson, je connais quelqu'un, Joseph, il est en prison. Il en parle au pharaon, le pharaon fit venir Joseph. Et ils rapportèrent à Joseph 2 rêves. Dans le premier, c'est des vaches grasses qui sont dévorées par des vaches maigres. Et dans le second, c'est des épis pleins qui sont engloutis par des épis vides. Et Joseph interprète ses rêves comme annonciateur de 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Et ce qui reçoit l'approbation favorable du pharaon. Joseph est tellement intègre, et on va le lire dans Genèse 41:16, il dit au pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. Il ne sait pas la suite des événements, mais il aurait pu se mettre en valeur et dire « Ouais, c'est moi qui ai donné l'interprétation. » Non, il rend à César ce qui appartient à César. Et là, c'est à Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ce don de reconnaître qu'il peut interpréter les rêves. Il est vrai jusqu'au bout. Joseph interprète les rêves du pharaon. Il dit « Attention, il va avoir 7 années d'abondance, mais 7 années de famine. » Et il souligne que Dieu révèle ce qui va se passer. Il va même jusqu'à conseiller le pharaon en lui disant « Écoute, tu devrais prendre une personne pour s'occuper des biens de justement de toutes ces récoltes. » Il aurait pu là aussi dire « Vas-y pharaon, choisis-moi, je suis l'homme de la situation. » Mais non, il va jusqu'à dire « Tu peux. » Alors le pharaon répond dans Genèse 41, 38-41. Le pharaon dit à ses serviteurs « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu Et le pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Waouh ! Waouh ! Joseph, là, il prend du grade. Il est haut placé. Il a le commandement de toute l'Égypte. C'est énorme. C.S. Lewis, un écrivain britannique, dit « Le pouvoir exerce une grande tentation. C'est le grand secret du succès de la tyrannie. Il peut accrocher les cœurs des hommes et corrompre les esprits les plus nobles. » Cette citation souligne la manière dont le pouvoir peut influencer les individus. Et parfois, on peut le voir quand des personnes gagnent beaucoup d'argent, ils en deviennent un peu fous, dirais-je. Mais Joseph gouverne. Joseph est devenu gouverneur. C'est un homme puissant. Malgré cette puissance, il n'a jamais tiré avantage de ses privilèges, de son autorité ou de ses ressources financières. Malgré tout ce succès, il reste intègre. Il aurait pu voler le pays. Il aurait pu faire croire que, ben, en fait, les récoltes, elles n'étaient pas si bonnes que ça, et s'en mettre de côté. Il aurait pu favoriser sa famille. Mais non, il est resté intègre, il est resté honnête, il est resté droit. Il était quand même le seul recours, j'ai envie de dire, il était seul à pouvoir sauver l'Égypte. Et il est resté intègre. Et grâce à lui, plusieurs peuples ont été sauvés. Mon père, une fois, a vécu une situation. Il avait un ami, et cet ami, à un moment donné, il a pris du grade et tout. Et mon père, très chaleureux, il va pour lui dire « Ah, bonjour, comment tu vas ?» Et il lui tend la main, il dit « Non, c'est monsieur maintenant. » Mon père, il dit « Ok, on se connaît plus. » Hop là. Mais comme quoi le pouvoir peut prendre vraiment la tête, j'ai envie de dire, et l'argent aussi. Je me rappelle quand j'étais en maison de retraite, je travaillais donc en maison de retraite, et il y avait une mamie, elle est rentrée à la maison de retraite, elle n'avait pas encore vendu sa maison, puis un lien de confiance s'est créé, tout ça. Et puis un jour, elle me dit, tu peux m'amener à la maison, s'il te plaît? Et je dis, ok, on va. Elle me dit, je dois récupérer des affaires et tout ça. Je dis, ok, je vous amène, je l'amène. Et tout. Elle me dit, rentre, viens, aide-moi à descendre dans la cave et tout ça. Je dis, ok, je descends avec vous. Je descends la cave. Elle enlève une pierre. Elle enlève deux pierres. Elle enlève toutes les pierres, elle sort une boîte, il y avait 2000 euros dedans. Ça, c'est nos anciens, quand ils mettent dans le matelas ou cachés dans des endroits. Et là, je fais, oh, punaise. Elle ne s'arrête pas là, elle le prend. Et puis, on arrive devant la maison de retraite où je la ramène, et elle me dit, voilà, je te le donne, tu le gardes jusqu'à demain, et on va l'amener à la banque demain. Et moi, je fais, oh, po, Seigneur, ta grâce, 2000 euros. Pour certains, c'est pas beaucoup. Ok, mais pour moi, c'était beaucoup. Et je dis, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va le cacher dans votre chambre. Il y aura que vous et moi qui saurons où c'est. Et puis demain, je viens vous chercher, on prend la boîte et on va à la banque. Elle me dit, bon, d'accord. Mais même à un moment donné, je vous assure, j'avais les clés de la maison de retraite. J'aurais pu venir dans la nuit, voler les 2000 euros, j'en sais rien. Enfin bref, j'aurais pu faire tout un truc. Je suis restée intègre, droite. Je suis même allée, même mon intégrité m'a poussée. Ma grand-mère, elle me disait, ma grand-mère paternelle disait, un sou, c'est un sou. Donc si t'appartiens pas, il t'appartient pas. Ok, c'est resté intégré, c'était une valeur pour moi. Et quand je lui avais fait ses courses à sa mamie, à cette mamie une fois, en fin de journée, je m'amène dans la poche et je sors, il y avait une pièce de 2 centimes. Je retourne vers la chambre, je toque, j'ai excusez-moi, en vous rendant la monnaie, j'ai oublié les 2 centimes. Elle part à rire, elle me dit 2 centimes. Et moi je dis, un sou c'est un sou. 2 centimes c'est 2 centimes, on en reste là. Je vais demander à l'équipe de louange si elle veut bien remonter. Mais intègre, Joseph, face à cette situation, il est resté intègre. Il est resté intègre, il n'a pas bougé face à ses valeurs. Et parfois, des fois parce qu'on veut ressembler à certaines personnes ou parce qu'on se laisse peut-être influencer par certaines personnes, on déroge à nos valeurs. Joseph est resté intègre. Frédéric Owen, un évangéliste américain, a dit « Une tentative de séduction un complot diabolique, une ingratitude notoire, la prison avec toutes les horreurs qui s'y rattachent, et pourtant, sa grandeur d'âme permanente, sa persistance à faire le bien, sa loyauté envers Dieu de ses pères ont amené le jeune homme au palais et il est devenu gouverneur du pays des pharaons. Je ne sais pas si on réalise vraiment son intégrité. La chose qui est folle, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'avait pas encore les commandements. Moïse est arrivé après, mais il avait eu cet enseignement. Il est resté intègre à ses valeurs, il n'a pas voulu broncher, il n'a pas voulu bouger. Et quand on parle de l'histoire de Joseph, ça fait quand même écho à une autre histoire, celle de Jésus. Jésus a été rejeté par sa famille, même par les disciples, après il a été rejeté. Jésus a été tenté aussi, mais il est resté intègre. Jésus a vécu l'injustice, il a été condamné pour nos péchés. Jésus est resté intègre. Jésus, j'ai envie de dire, face à son succès qui se retrouve à la droite du Père, il est toujours autant amour pour toi et moi. Il est toujours autant bienveillant. Il est toujours là pour nous relever, nous redresser. Jésus n'a pas sauvé quelques peuples, mais Jésus a sauvé toute l'humanité. Toute l'humanité. L'intégrité finit par faire taire les injustices. Finit par faire taire les critiques, les fausses accusations. L'intégrité fait prospérer. L'intégrité fait briller pour la gloire de Dieu. Et en fait, c'est notre attitude qui fait la différence. Le fait d'être intègre. Et je me souviens une fois, une amie, elle a voulu me tester. Et elle fait appeler son chéri, donc son chéri m'appelle. Il m'appelle, il dit « Oui, Laurence, elle est avec toi et tout ça ?» Et moi, je lui dis « Ben non. » Il dit ah, « Arrête de me mentir et tout, elle m'a dit qu'elle était avec toi. » Et il surenchérit, il me donne... Et moi, je dis « Ben non, elle n'est pas avec moi. » « Ben non, elle n'est pas avec moi. » Et j'insiste, je dis « Non, je t'assure, elle n'est pas avec moi. Si tu veux, on se met en visio, elle n'est pas avec moi, elle n'est pas cachée, elle n'est pas machin, je ne veux pas te mentir, elle n'est pas avec moi. » Et après, donc sa chérie, Laurence, elle était à côté de lui, elle dit « Ah ben en fait, t'as raison. Hein. Elle dit qu'elle ne ment pas et elle ne ment pas. Hein. »« Ben non, je ne vais pas mentir, je vais rester intègre à ce que je suis. » Et j'aime bien le... Il y a un verset qui dans Job où Dieu, l'Éternel parle à Satan et dit « Mais t'as vu mon homme, t'as vu Job, cet homme intègre, comme j'aimerais que Dieu me dise ça aussi. Comme j'aimerais que Dieu dise ça de vous, de chacun de nous. Que nous soyons tous intègres. » Et je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si vous avez vécu le rejet, si vous avez vécu l'injustice, si vous avez vécu le succès, si vous avez vécu tant de situations qui peut-être vous travaillent et dire « Qu'est-ce que je dois faire ?»« Seigneur, je veux rester intègre. » Face à la situation que je traverse, face à cette injustice, face à cette trahison, face à ce rejet, face à cette tentation. Punaise, Seigneur, je veux rester intègre, intègre, droit. Et si tu n'y arrives pas ce matin, alors vraiment, je t'encourage, vraiment, et je veux prier ce matin. Dans ton cœur, si tu dis, ben, Seigneur, je lève la main parce que je cherche à être intègre, je veux être intègre, je veux que tu m'aides à être intègre. Que nous soyons un peuple de Dieu intègre et qui marque la différence dans Strasbourg, là où on est dans nos familles, afin que des âmes se tournent vers Dieu, afin que des âmes puissent être attirées par cette intégrité, par cette loyauté, par cette honnêteté qui nous vient de Dieu et qui se disent, mais en fait, je veux être comme eux, quoi. Je veux être comme eux. Seigneur, je veux simplement te prier ce matin. Seigneur, cette intégrité de Joseph, elle me touche comme j'aimerais lui ressembler. Seigneur, et je te prie vraiment pour toutes les personnes, tu vois dans leur cœur, Seigneur, qui ont du mal, Seigneur, parfois, face à l'injustice, face à la tentation, face, Seigneur mon Dieu, Père, au rejet, face, Seigneur mon Dieu, peut-être au succès, ne pas arriver à gérer. Seigneur, je te prie pour que tu puisses les aider à être intègres, Seigneur mon Dieu, être loyal, Seigneur mon Dieu, à ne pas s'éloigner de ses valeurs, Seigneur, mais à les chérir, à les aimer, à vouloir les respecter jour après jour. Je te prie, mon Dieu, vraiment, d'agir dans le nom de Jésus et pour la seule gloire de ton nom. Amen. Raconte la vie.
Envers nous. Et merci à l'équipe de louange, merci Anne pour ce message. Moi, ça vient me challenger dans mon intégrité, même dans les petits détails. Donc merci pour ce rappel-là. Juste un rappel, il y a l'espace écoute et prière pour ceux qui ont besoin d'être écoutés et compris pour eux. Il y a une équipe qui se tient là à disposition, donc juste libérer l'espace pour laisser un petit peu d'intimité. Et donc n'hésitez vraiment pas à y aller. Et juste, j'ai oublié de dire l'ordre du jour de l'AG, et il y a aussi les convocations qui sont disponibles pour les membres, donc n'hésitez pas à y aller. Enfin, allez-y surtout et prenez cette convocation pour qu'on puisse être prêt pour l'AG. Bonne célébration à chacun, donc l'espace écoute et prière, et puis le stand pour l'Assemblée Générale. Bon dimanche à chacun.